la première fois qu'il a fait un texte, aussitôt qu'il a été mis sur le trône du successeur de Saint-Pierre, aussitôt il a, vous savez, fait une encyclique qui s'appelle Redemptor Hominis, Redemptor de l'homme. Et tout de suite, la première chose qu'il a fait sur le balcon de Saint-Pierre, d'abord, premièrement, numéro un, il a dit, n'ayez pas peur. Avant de faire la philosophie de l'un, puisque cette année, on essaie de regarder la question de l'énosis, n'est-ce pas? L'énosis, malheureusement, pour ceux qui prennent le train en marche, mais ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très facile, hein, ne vous inquiétez pas. On est à la quatrième séance, mais je vais reprendre. La question de l'un en N, en grec. Donc voilà notre sujet, n'est-ce pas? Notre sujet en philosophie le samedi, c'est de regarder cette question de l'unification. L'unification. Comment nous retrouvons l'un. L'un. Ouais, c'est comme on est très 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 loin, très très loin avec un sujet pareil de ce que vous entendez à la radio ou dans les universités, même de philosophie. Voilà. Mais justement, il y en est bien obligé de faire un type. Or, c'est très important cette question-là, n'est-ce pas, puisque on est un petit peu dispersé. On est dans le multiple. Donc, c'est très important d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette connaissance, cette naissance, plus exactement, avec là. Cette naissance avec là, la connaissance de là. La connaissance de l'un dépasse complètement tout le point de vue donc du conceptualisable. Et c'est justement c'est ce qu'on essaye de regarder cette année en philosophie, essayer de trouver une certaine autonomie, n'est-ce pas? Une certaine autonomie, une certaine densité, si vous voulez, une certaine unité qui fait que tout ce qui est multiple autour de nous ne peut plus nous atteindre. C'est pas? Et au contraire, le multiple, au lieu de nous disperser, est intégré dans l'unité. Et c'est tout le problème de l'homme, c'est de pouvoir toucher en lui cette puissance qui lui est donnée par sa nature, n'est-ce pas? Parce qu'il participe à l'un. Et pour participer à l'un, il faut qu'il rentre dans une grande unification, qui aille jusqu'au point de vue de la substance, et qui dépasse le point de vue de la substance. Ça, c'est notre sujet, voilà. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est notre sujet de cette année, pour le samedi. Alors, tout le problème, c'est... Je sais bien, quelquefois, on se dit, mais... Attends, où est-ce qu'on va avec ça? C'est un peu compliqué, quoi. C'est pas compliqué, hein? Vous sentez bien que jusqu'à maintenant, j'ai rien dit de compliqué. Rien dit, hein? Même pour. C'est très simple, c'est très simple. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est savoir comment on fait, c'est pas? Voilà, donc c'est ça. Hein? Parce que c'est bien gentil de parler de l'un, de l'unification, mais puis si on ne sait pas, si on n'y arrive pas. Donc la philosophie, elle est là, justement, pour qu'on puisse partir de l'expérience. Et qu'on puisse trouver l'expérience. Parce que si on cherche l'un, cette communion, cette connaissance, cette naissance, plus exactement, avec l'un, cette naissance dans l'un, cette connaissance de l'un, ce qui dépasse toute connaissance, si vous voulez, si je le fais sans être passé auparavant par le point de vue métaphysique, et de l'être, jusque dans le point de vue de la substance, et de l'être, jusque dans le point de vue de son énergie intérieure, de son énergéia, de l'acte, mon unification sera périphérique. Ce sera une unification englobante. Voyez. Et c'est pour ça que toutes les mystiques de l'un, qui sont des mystiques modernes, que vous trouvez dans les loges maçonniques, que vous trouvez dans les initiations, etc., qui ne passent pas par le point de vue métaphysique, du jugement d'existence, eh bien, forcément, ils vont réduire la mystique de l'un ou le toucher de l'un à la mystique du tout, c'est-à-dire de l'enveloppant. mais ils ne touchent pas l'homme. Ils en touchent une émanation dans l'enveloppant. Ce qui est très grave. Ce qui est très grave. Alors du coup, ça fait des êtres périphériques. Donc ils vont dire, quelque part, que l'unité... Et c'est pour ça que ça va devenir... Ils vont rentrer dans une appréhension du monde, dans un engagement dans le monde, vous voyez, qui ne sera pas à partir, donc, du centre même, si je puis dire, de l'intimité, de l'au-delà même de la substance, mais ils vont dire non pas in medio unitas, mais ils vont dire in periferio unitas. Vous voyez, l'un est dans la périphérie. Et c'est pour ça qu'on va faire de la politique, on va unifier le monde, on va faire du mondialisme, etc. L'Église trouve son unité, par exemple, l'Église. L'Église, c'est le mystère de l'un. Il y a un seul Dieu, il y a un seul corps mystique, il y a une seule grâce, une seule foi, un seul baptême, une seule humanité. Parce qu'une humanité qui s'arrête à un moment donné, l'an 2002 par exemple, n'est-ce pas ? L'humanité s'arrête en l'an 2002, terminé. La seule humanité qui existe, elle subsiste, elle est éternelle. Il y a une seule humanité, c'est l'humanité qui est prise par la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette « un » Vous comprenez? Le « un », selon que nous, si nous n'arrivons pas à toucher, ben alors attention, quand je dis philosophiquement, ce n'est pas intellectuellement, mais expérimentalement, le point de vue de l'un, nous allons avoir une manière de percevoir et de nous engager dans le monde par rapport à nous, par rapport à celui que nous aimons, par rapport à l'Église, par rapport à Dieu, différente. Et nous aurons une conception de l'unité différente, vous voyez. Alors par exemple, pour l'œcuménisme, on va être un ensemble. Hein. Et ben, si on n'a pas fait la métaphysique de l'un, ou si on n'a pas fait de métaphysique du tout, puis qu'on essaie de trouver l'unité, et ben on va essayer de recoller les morceaux. On recolle les morceaux, avec une mauvaise colle, en plus. Parce que c'est pas la colle de l'un, vous comprenez? C'est pas mal. Je suis enchanté de la forme. Mais ça donc, il y avait... être collé dans l'un, c'est extraordinaire. C'est génial, vous comprenez? Et ça, c'est des problèmes qu'il faut soulever, ça. Il le faut. Ça, c'est très, très... important. Alors, bien sûr, c'est très à la mode de faire de la métaphysique, mais aller jusqu'à l'un, très très peu. Vous voyez, nous sommes une élite. Nous sommes une élite. Ah, ça, je vous affirme, nous sommes une élite parce que la métaphysique de l'un, moi personnellement, ça me passionne, hein, depuis une vingtaine d'années, la métaphysique de l'un, ça me passionne. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça formidable. Alors, j'ai découvert beaucoup de choses à partir du moment où j'ai fait l'induction de l'acte. Vous voyez ce que nous avons fait l'année dernière? Beaucoup de choses. Vous voyez? Parce que ça permet de faire éclater toutes les formes périphériques de l'un, qui en sont que des émanations. Et justement, c'est ce que je voudrais que, petit à petit, ensemble, on puisse percevoir. Toucher. Parce qu'une fois qu'on a touché ça. Hein... Alors, ce que Saint-Père, donc, je reviens, ça c'était pour le sujet de cette année, donc vous voyez, je pensais que c'était pas là. Et on va essayer de continuer. Donc, ce que Saint-Père nous demande, justement, dans cette préparation donc, du deuxième millénaire, je veux juste quelques petites choses, et quelques petites phrases. Il y aura un petit couplet à chaque fois, n'est-ce pas? Normal. Il faut comprendre que les chrétiens sont appelés, dans cette année 97, à se préparer à ce jubilé universel. C'est une joie universelle, spirituelle, cosmique, de l'humanité, en ranimant leur espérance en l'avènement définitif du royaume de Dieu. C'est pas petit hein, de dire ça, c'est pas. Parce qu'on dit aujourd'hui, l'avènement du royaume de Dieu, c'est foutu quoi. En 3 ans, l'avènement du royaume de Dieu. Donc en ranimant, hein, et en le préparant jour après jour dans leur vie intérieure, vous voyez. Voilà. Et pour ça, donc, il propose pour l'année 1997 trois objectifs. Ça, je vous le rappelle parce que, avant qu'on attaque, parce que c'est cette petite introduction spirituelle, d'abord la prière, le Saint-Père et après la philosophie. C'est normal. On va descendre petit à petit dans les profondeurs de la. Non, mais on démarre quand même de la. On va descendre de la montagne. Un jour que Jésus descendait de la montagne. Et qu'il vit vers lui arriver des foules innombrables, il vit un. C'est extraordinaire. Et le un lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et fut ému Jésus, il tendit sa main, et il toucha l'un. Il toucha celui-ci et lui dit, je le veux, sois rendu pur. Oui, ça c'est extraordinaire. C'était l'évangile d'hier, je crois, avant-hier. Sauf que je l'ai remplacé. Et il vit un homme. Un. Et il dit, je le veux. Vous voyez, donc on passe, on descend de la montagne petit à petit. Donc de la prière, le Saint-Père, hein, ça c'est Jésus qui descend de la montagne, et puis après on va vers la purification de l'âme. Formidable. La première chose, les trois... Les trois axes de cette année, sur le plan spirituel, sur le plan religieux, sur le plan chrétien, sur le plan de la grâce, sur le plan de l'union transformante, consiste à bien regarder que nous devons nous imbiber du Christ. Et pour nous imbiber du Christ, il convient qu'au cours de cette année 1997, les fils, les disciples du Christ, les chrétiens, reviennent à la Bible d'une manière attentive et totalement nouvelle. Alors, c'est le premier axe. Et ça, je voulais quand même vous dire ça parce que c'est pour ça que je voudrais tellement que dans toutes vos chambres et à la maison, votre Bible soit ouverte. La nuit, le jour. Reprenez cette règle. Ça n'a l'air de rien, mais voyez, il faut comprendre que notre Bible doit rester ouverte. Exactement comme nos églises, vous voyez, qui sont fermées, nos tabernacles fermés, etc. C'est pas bien. Il faut de temps en temps ouvrir le tabernacle, mettre l'ostensoir. De temps en temps. Mais à la maison, il faut que notre Bible soit toujours ouverte, nuit et jour. On jette un coup d'œil dessus. Et je sais pas si vous... Juste un tout petit mot là-dessus. Parce que nous avons fait l'année dernière les secrets pour découvrir le paradis intérieur des Écritures. On a passé toute une année à faire ça, des secrets, 2000 ans de secrets, pour pénétrer et toucher le paradis des Écritures. Ben, je vous rappelle simplement cette petite chose. Quand vous rentrez dans une église, il n'y en a peut-être plus beaucoup maintenant, mais des églises ouvertes. Mais il y a quand même, à Montpellier, vous avez des églises ouvertes. Il y a quelquefois des statues, n'est-ce pas ? Et parmi les statues, vous le savez, il y a Saint-Antoine de Padoue. Et dans cette statue de Saint-Antoine de Padoue, vous voyez Saint-Antoine de Padoue avec une Bible. C'est une statue en plat de Saint-Antoine de Padoue, il est facile à connaître, c'est un moine, sauf qu'il n'est pas en gris, c'est en marron, n'est-ce pas? Bon. Il a souvent un lys blanc, parce qu'il était contemplatif, le lys c'est la contemplation, c'est la transparence, et il lit la Bible. Et en fait, quand il lit la Bible, au lieu de lire la Bible, au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il lit, il comprend une chose, c'est que la Bible, c'est le Christ. Je veux dire, c'est la parole, c'est Dieu qui parle, c'est le Verbe de Dieu. C'est la, vous voyez, ce que Dieu conçoit, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Et donc, comme Dieu est vivant, il est toujours en train de... dans une fraîcheur de vitalité, il est conçu, c'est une conception éternelle. Dieu est conçu. Dieu se conçoit continuellement. Dieu qui conçoit, c'est le Père. Dieu qui est conçu, Dieu qui est vivant, c'est le Fils, c'est le Verbe. Et cette conception, voyez-nous, quand d'un seul coup, je conçois en moi une idée, alors l'intellect actif vient prendre dans cette conception, abstraire dans l'intellect possible, parce que cette conception se produit dans l'intellect possible, et la lumière de l'intellect agent vient prendre dans cette conception un verbe. Et du coup, le verbe, ce que je conçois, illumine toute mon intelligence par le verbe intérieur. Et si je veux l'exprimer à l'extérieur, je l'exprime par une parole. Vous voyez la différence extraordinaire qu'il y a entre le concept, la conception spirituelle, le verbe, la parole. C'est très classique, ça. Il faut arriver, ce qu'il faut que nous arrivions, à voir, vous voyez, à voir. Que la parole est multiple. La parole est multiple. C'est une multiplicité de paroles pour exprimer une seule vérité, mais qui est quand même relative à son origine, à son éternité, conception. Donc, vous voyez, et pourtant c'est la même chose, vous voyez. Le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe, c'est le Fils éternel du Père. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Donc, quand saint Antoine de Padoue lit la Bible, vous le voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un petit enfant Jésus dessus. Je dis, qu'est-ce qu'il fait ce petit enfant Jésus sur la Bible? Un petit enfant Jésus, il est là. Un petit enfant Jésus, c'est extraordinaire. Mais ça nous fait comprendre ce que dit le pape ici, n'est-ce pas? Quand vous lisez la Bible, il faut que vous compreniez que c'est pas vous qui êtes la mesure de la Bible, c'est derrière la Bible le corps mystique de Jésus, le corps spirituel de Jésus, le corps enfantin de Jésus, le corps innocent de Jésus, le corps engendré éternellement de Jésus, engendré non pas créé, vous voyez, le corps mystique de Jésus qui parle et qui vous mesure. Alors à ce moment-là, vous essayez de rejoindre à travers le texte le corps mystique de Jésus qui se donne à vous en nourriture. Et à force de faire ça, ça c'est un exercice facile à faire, je vous affirme. Si vous lisez la Bible comme ça, ça change tout. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous saisissez le truc. Mais il faut comprendre, c'est le corps mystique de Jésus. Le corps mystique, c'est-à-dire c'est tout ce que le Verbe incarné porte de toute la création, de toute l'humanité qu'il brûle dans la lumière de son verbe, qui est là et qui vous parle. C'est pour ça que la Bible est passée par des inspirés, voyez? Parce que c'est le corps mystique de Jésus, vous comprenez? C'est Moïse, c'est Jean, c'est Paul, c'est Isaïe, vous comprenez? C'est tout cela. Et puis, mais il y en a plein d'autres. Il y a aussi tous ceux qui portaient le verbe. Abraham portait le verbe. C'est tout le corps mystique de Jésus. C'est tous ceux qui portaient la conception même du verbe de Dieu. Tous les baptisés qui parlent par ce corps physique brûlant, lumineux de Jésus. Et voyez, il faut qu'à travers le texte, vous puissiez percevoir la présence réelle et de Jésus. Du corps mystique de Jésus qui se donne à vous en nourriture. Mais il faut, à travers le texte, voyez, je ne sais pas si vous voyez, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça, quand vous allez dans les prisons, en prison, et que vous avez ces grandes vitres-là, Hein? Et puis de l'autre côté, vous avez prisonnier, un peu quelquefois. Bon, il faut passer à travers, faudrait qu'on puisse saisir derrière la vitre de l'écriture le corps mystique de Jésus qui nous parle. Et c'est vrai qu'on n'entend pas derrière cette vitre, il faut un hésiaphone. Et l'hésiaphone, c'est la foi. Vous voyez, c'est la foi dans le Christ qui nous permet de lire la Bible. C'est facile à comprendre. Et alors, à ce moment-là, il se donne à nous en nourriture. Et c'est pour ça que émanait de la Bible que saint Antoine de Padoue portait dans ses mains, émanait l'enfant Jésus qui se donnait à lui. Et c'est bien quand on rentrait dans sa cellule, qui était en train de lire la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On le voyait avec l'enfant Jésus qui était là. C'est pour ça que vous avez ces statues de Saint-Antoine de Padoue plusieurs fois. C'était courant chez lui. Eh bien, ça doit être tous les jours pour vous pareil, n'est-ce pas? Il doit y avoir un petit enfant Jésus qui doit sortir la Bible et puis vous en nourrissez. La parole de Dieu est une nourriture. Oui. Ça, c'est le premier axe, vous voyez? Première règle. Puisque vous ne pouvez pas faire comme moi, dire la messe tous les jours. Moi, je suis tranquille. Je prends une Bible, c'est du pain, des grains broyés, etc., avec de l'eau, du vin, des grains, etc. Voilà, c'est une Bible, ça. Tout est Bible. Tout est Bible. Et puis de là, je vais sortir Jésus. Et je m'en nourris. Vous pouvez le faire, vous pouvez y aller. Mais vous pouvez tous les jours prendre la Bible et puis pendant 5 minutes, voyez, au lieu de lire la Bible et d'essayer de comprendre vous ce que dit la Bible, percevoir derrière le corps mystique, j'ai bien dit le corps mystique de Jésus. C'est l'église lumineuse, l'église immaculée, l'église éternelle, la Jérusalem mystique, le corps de Jésus. Vient des bras du Saint-Esprit, des mains du Père, l'Esprit Saint qui est engendré et qui se donne corporellement à vous. Il faut arriver à le percevoir, ça. Il faut le percevoir. Vous avez 5 minutes pour ça, c'est pas compliqué. Vous lisez jusqu'à ce que, à force de lire, vous disiez, mais oui, c'est le corps mystique de Jésus qui se donne à moi. Et vous vous en nourrissez. Peu importe ce que vous en comprenez, ça, on s'en fiche complètement. Parce que la compréhension vient après. Vous voyez? La compréhension, ce que vous en comprenez. Vous voyez, ce que vous. L'appréhension. L'appréhension humaine. Ça vient après. Si vous restez à l'appréhension humaine, vous voyez, eh bien, la parole de Dieu, c'est comme si vous avez craché dans un pot. Si vous essayez de comprendre ce qu'il y a marqué dedans. Comme si vous avez craché dans un pot, pareil. Vous n'êtes pas plus avancé. Tandis que si vous avez essayé de voir, de percevoir que c'est le logos, le verbe pécheur, corps mystique, vous voyez, qui vous donne la parole éternelle du Père à travers quelque chose de concret pour que vous en nourrissiez, vous voyez, ah, c'est autre chose. Donc rappelez-vous ce petit schéma, premier axe de ce que le Saint-Père nous propose. D'abord, j'ai perdu la page, revenir à la Bible avec d'une manière attentive et totalement nouvelle. Totalement nouvelle. La deuxième chose, au cours de cette année, la redécouverte du baptême. Au cours de l'année 1997, toutes les forces, toutes nos forces pour actuer, c'est-à-dire rendre parfaits les sacrements, vont prendre appui sur la découverte nouvelle du baptême. C'est extraordinaire. Découverte nouvelle du baptême. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Attention, vous voyez, au niveau de... Attention, revêtu, hein, important. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ah, est-ce que c'est un revêtement périphérique ou c'est un revêtement de l'intérieur? Vous avez revêtu le Christ. Le Christ nous revêt de l'intérieur. Hein? Si vous êtes dans une philosophie contemporaine, une philosophie de l'un, hein, qui est une philosophie, une idéologie en fait. C'est ce qu'on avait vu samedi dernier, en décembre. C'est toutes les idéologies de l'un qui sont fausses et qui nous font perdre complètement pied et nous mettent au fond dans cette espèce d'écartèlement. On est crucifié par l'abandon de l'un, par la nostalgie de l'un, par une idéologie de l'un, parce que l'un n'est pas au niveau des idées. Vous comprenez? C'est ce qu'on avait vu, toutes les idéologies de l'un qui font que la renaissance dans l'un n'existe plus. Et ça, c'est un phénomène contemporain, vous le savez. Bon, eh ben, il faut retrouver l'un en soi. À ce moment-là, si on reste dans cette philosophie-là, eh bien, on a une conception protestante, au fond, du baptême, vous le savez, puisque pour le protestant, c'est-à-dire pour celui qui ne vit pas du corps mystique du Christ, eh bien, forcément, c'est une relation, je suis pécheur, je suis complètement pécheur, et j'ai besoin que le sang du Christ me coule dessus, n'est-ce pas, me coule complètement dessus, et petit à petit, comme une éponge, me lave. Ce concept. Et en plus, il ne me lavera jamais à un point tel que le péché disparaîtra. Le péché sera encore plus voyant. Parce que là, ici, ça va être immaculé. Et ici, encore plus rouge, encore plus écarlate. Parce que, tu vois, quand c'est... Parce que si le baptême, c'est que tu es plongé dans l'immaculation, à l'intérieur, le contraste est encore plus terrible. C'est ça, le drame de Luther. C'est que Christ me sauve, mais mon péché est pire. Tandis que si nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ, mais attention, c'est à partir de cette conception qui est la nôtre, qui est une nouvelle conception, une nouvelle vie du centre même de notre âme spirituelle, et qui est un renouvellement, une transformation. À ce moment-là, il y a la victoire sur le péché et il disparaît. Le foyer de la concupiscence demeure, mais la grâce sanctifiante nous permet non seulement de le maîtriser, mais en plus, si vous voulez, de le remplacer par une victoire mystique, religieuse, personnelle, d'union transformante réelle et corporelle. Mais c'est de l'intérieur qu'il y a ce revêtement du baptême. Oui. Et ça, c'est sûr que vous voyez, il y a un problème. Donc, une retrouver, ce que nous verrons pour ceux qui seront là, on va essayer de... Ce que nous essayons de voir, ça c'est un gros problème, c'est ce gros problème du baptême, on pourra en parler. Hein. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs. Hein. Si vous voulez, on pourra en parler un petit peu, mais... Je ne sais pas, on verra si on peut en parler lundi, par exemple, pour ceux qui seront encore là, mais sinon, on peut en parler un petit peu, hein. Je dis, c'est pas grave, si je me répète, c'est des choses très intéressantes. Vous qui avez été baptisé, vous avez revêtu le Christ. Il y a quelque chose qui doit faire que le baptême doit nous faire comprendre que nous ne vivons pas de la rédemption. Ce n'est pas une multitude qui vit de la rédemption par le baptême, vous voyez. Ce n'est pas toi plus toi plus toi qui trouve sa justification par la foi qui est personnelle. Parce que ça, c'est extérieur. Tu vis de l'intérieur, de la naissance d'un corps mystique, de l'intérieur même, de ton individualité pécheresse. Et il faut comprendre, c'est ce que le Saint-Père dit, tu restes, il faut que il faut que je trouve ça. Que à l'occasion donc de cette jubilée de l'an 2000, de cette préparation, tous les chrétiens reçoivent comme un don absolument, je vous le dis comme ça de mémoire, hein, comme un don absolument extraordinaire du Christ qui se donne lui-même à nous, le don de son Église. Et voilà, ils élèveront avec une profonde conviction, les chrétiens. Mais profonde, vous voyez, conviction, certitude. Leur gratitude, leur remerciement, leur action de grâce pour le don du corps mystique de l'Église. C'est profondément qu'on reçoit de l'intérieur, de notre esprit, dans la lumière d'une certitude et dans une douceur de l'onction, le don de corps mystique de l'Église. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus. Et c'est ça qui nous est donné par le baptême. C'est que là où on est un foyer de concupiscence, un foyer de péché, c'est-à-dire là où on hérite du péché originel, c'est-à-dire Dieu sait qu'on hérite du péché originel. Si quelqu'un n'a pas hérité du péché originel, qu'il vienne me trouver, on le mettra dans un zoo, parce que c'est très particulier, le péché originel. Fondé par le Christ, car l'Église est fondée par le Christ comme sacrement, c'est-à-dire comme signe, lieu concret, efficace, de l'union intime avec le Christ et de l'unité de toute l'humanité. Vous voyez, c'est encore un mystère d'unité, le baptême. C'est que le baptême fait que là où je suis dans le péché originel, je suis fautif parce que j'ai une nature humaine que j'ai reçue d'Adam, et qui est une nature déchue. Lorsque je suis conçu par Dieu dans le sein maternel, je reçois une nature déchue. Ma chair va vers le péché, spontanément, spirituellement, instinctivement. Instinctivement, sans, non seulement sur le plan de l'instinct barbare, mais aussi instinctivement du point de vue de l'esprit, du choix, de la volonté. Ma volonté, au lieu d'aller vers sa fin surnaturelle, sa fin éternelle, sa fin de la gloire, de la lumière de gloire, de la vision béatifique, spontanément, dès la conception, même quand je suis en train de naître, ma volonté va vers le terrestre, va vers le non-éternel, vers le non-surnaturel, ne va pas vers sa fin, il va vers du secondaire. Et c'est ça le péché c'est qu'on ne va pas vers Dieu, on refuse d'aller vers Dieu, on choisit le terrestre, c'est ça le corps terrestre. C'est terrible, et on a ça, et ça, Dieu ne le voulait pas quand il a créé l'homme et la femme. Quand il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, eh bien, il a créé l'homme, homme et femme, dans une nature intégrale. Et cette nature intégrale faisait que bon, allez, en avant pour le péché originel. C'est du catéchisme élémentaire. Hein. Tant pis pour la philo. Hein. On verra. On aura tout le temps de faire dans la deuxième séance, dans la deuxième partie après le. Oh bon, vite. Sauf si vous voulez qu'on fasse l'un tout de suite. Moi, je veux bien. Mais le péché originel, extraordinaire, ce péché originel. Il faut bien qu'on change un petit peu de hein, une petite excursion vers le péché originel. Qu'est-ce qu'il y avait dans le péché? Dans le péché originel, quand Dieu crée, après avoir créé toutes les dispositions de la nature, il va créer l'homme et la femme. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout ce que Dieu a créé, alors là, attention, on n'est plus en philosophie, cette fois-ci, on est en dans la doctrine donc catholique, dans la doctrine apostolique, dans la doctrine dogmatique et dans la voie infaillible de l'Église, n'est-ce pas? Donc c'est, on est sur le plan théologal ici, on n'est plus en philosophie. On n'est plus en philosophie, on est en théologie. Quand Dieu crée, il crée tout ce qui existe ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Mais pour l'homme, il crée l'homme à partir de quelque chose. Très curieux. Très curieux. Il crée l'homme à partir de quelque chose, à partir de la glaise. C'est très fort. Oui. Je vous ai dit souvent, ça c'est de la théologie biblique, littérale. Il crée à partir de quelque chose. Ma foi, que ce soit de la boue, que ce soit une écrevisse, que ce soit un singe, je m'en fous complètement. Vous comprenez? Mais c'est à partir de quelque chose. Et ce qui fait que ça va être un homme, c'est qu'il va lui changer. Il va prendre ça, il va le modeler et lui donner une forme, je m'excuse, humaine parfaite, n'est-ce pas? Il va lui donner une forme humaine parfaite, il va lui changer de l'intérieur sa forme eidétique, sa forme substantielle, sa forme morphologique. Il va lui donner une forme intérieure parfaite, sa forme biologique aussi, on le sait très bien aujourd'hui. Et une fois qu'il lui a donné une forme parfaite, il va lui insuffler la neshama, c'est-à-dire l'esprit. Un souffle de vie qui est neshama, c'est-à-dire qui est spirituel. Donc il va faire trois choses, vous voyez. Il lui donne et il le met debout, il le réveille. Donc il y a trois choses dans la créature de Dieu par rapport à l'homme. Et il le crée en plus avec la grâce. Ah, ah, là, 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 là. Avec la grâce. Le mot est lâché. Ça y est, la grâce. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Avec la grâce originelle. Avec la grâce originelle. Et à cause de la grâce originelle, qui est quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel, qui n'est pas naturel du tout. Ce n'est pas humain, la grâce originelle. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain du tout. Ça n'a rien à voir avec la création. Ce n'est pas naturel du tout. Ça n'a rien à voir avec le spirituel limité. C'est purement divin. La grâce originelle qui prend Adam et Ève de l'intérieur font qu'ils ont non seulement une nature intégrale, alors retenez ça, hein, une nature intégrale. Leur nature humaine n'est pas du tout blessée. Leur nature humaine est unifiée. L'énosis est faite. Mais qu'est-ce qui fait l'énosis? Qu'est-ce qui fait l'unification vivante, lumineuse, corporelle, spirituelle, temporelle et éternelle de cette nature humaine, de cette conscience, de cette vitalité, de ce sourire, de cette avancée, de cette respiration d'Adam, oui, de cet amour, de cette contemplation, de ces paroles prononcées? De cette réflexion d'Adam, de cette science d'Adam, qu'est-ce qui fait l'unification? C'est la grâce originelle. C'est la vie divine, lumière vivante, qui fait que la volonté, c'est-à-dire le cœur profond, hein, la volonté d'Adam, je veux dire Adam, hein, pour Ève c'est pareil, hein, c'est pas par ostracisme. Que la volonté d'Adam est parfaitement, la grâce originelle fait que la volonté d'Adam est parfaitement unifiée, en concordance, en harmonie avec la volonté divine, avec l'amour divin. Il ne le voit pas. Alors il a en même temps son intelligence et parfaitement reçoit de l'intérieur une connaissance infuse de tout ce qui est créé. C'est pourquoi Adam peut nommer toute chose. Il peut donner un nom. Et le nom réel, le nom substantiel à tout ce qui existe. Et d'après les rabbins, vous savez, c'est ça qui a donné la rage à Samaël. Parce que Samaël, il est dit dans un midrash rabbinique qu'à un moment, Samaël se trouve devant le trône de Dieu. Et puis Dieu dit, bon, je te donne de pouvoir nommer toutes choses. Les poissons, les oiseaux, tout ce qui va dans les eaux, tout ce qui va au-dessus du ciel. Et Samaël dit, mais pourquoi tu lui demandes de ça? Il dit, ben fais-le toi. Et Samaël ne peut pas donner un nom à toutes choses. Il n'a pas de corps. Alors Samaël en conçut une très grande jalousie. C'est extraordinaire, cette espèce de science infuse, cette intelligence extraordinaire, lumineuse, par laquelle Adam peut pénétrer de l'intérieur toute chose corporelle, toute chose limitée, toute chose créée, ex nihilo. Ce que l'ange ne peut pas faire. Toutes les puissances de sensibilité externe, le goût, l'odorat, le sens du toucher, le toucher intérieur, la cogitative, la sensitive, l'imaginaire, la mémoire sensitive, la memoria dei, tout ce qui est là, vous voyez, toute l'intelligence, tout est totalement unifié à l'amour. Et à la fin surnaturelle, à cet amour total qu'il y a avec Dieu, tout en étant et en restant dans le point de vue de la nuit de la foi. Mais c'est une nuit de la foi qui fait qu'il y a une certitude, une installation, vous voyez, à l'intérieur de cette vision de Dieu sans le voir. C'est sous le mode de l'esprit d'intelligence, c'est évident, l'esprit de science. Vous voyez, l'extraordinaire, et du coup, comme le corps lui-même, quatrième don, comme le corps lui-même d'Adam est si fortement pris par la médiation de son âme, elle-même prise par la grâce originelle. La grâce originelle assume totalement l'âme, c'est-à-dire la vie intérieure d'Adam. Et lui donne une force d'unité. Et du coup, le corps s'unifie substantiellement à l'âme d'Adam à cause de la grâce originelle. Et c'est pourquoi il est immortel. La mort ne peut pas pénétrer en lui. Attention, il n'est pas immortel en raison de sa nature intègre. L'humanité, sans la grâce originelle, normalement, si Dieu avait créé l'homme parfait, intégral, avec son imaginaire, toutes ses puissances parfaitement unifiées à son cœur d'amour, voyez, mais sans la grâce originelle, eh ben, il aurait connu la mort comme nous. Le fait qu'il soit immortel, ça ne vient pas de sa nature humaine, ça vient de quelque chose qui ne relève pas de l'humain, qui ne relève pas de la nature, qui ne relève pas de sa limite de créature. Ça vient de la grâce originelle. Vous saviez ça? C'est du catéche élémentaire, hein, les mecs. Hein. Bon. C'est élémentaire, ça. Bon, élémentaire. Et la science infuse par laquelle Adam peut nommer toute chose créé par Dieu, et en particulier sa descendance. Vous voyez, bon, enfin, il n'a qu'un nom à donner, c'est homme, hein, et femme, mère des vivants, c'est tout. Et par laquelle il appréhende de l'intérieur de la substance toutes les espèces, et ben, cette science-là est propre à Adam. Vous voyez, donc si jamais il n'y avait pas eu le péché originel, s'il n'y avait pas eu le péché originel, il nous aurait transmis la nature intégrale, il nous aurait transmis une nature par laquelle Dieu y aurait surajouté pour chacun de ses descendants la grâce originelle, et on aurait été un corps mystique de saint. Un corps mystique de saint, de grâce originelle. Vraiment un seul corps, vous voyez, avec une très grande harmonie entre nous. Et de sorte que quand Dieu a créé l'humanité en Adam, il a créé un corps mystique. Il a donné à Adam sa substance, sa personne, son corps, son âme spirituelle, sa forme, sa prédestination, c'est-à-dire sa vocation à être le chef de toute l'humanité d'un corps mystique. Et il lui a donné en plus une nature originelle, une nature intégrale, surnaturalisée par la grâce originelle, qui n'était pas que pour lui, mais qui était pour tous les hommes. La nature intégrale, illuminée par l'unification, l'énosis de la grâce originelle, était donnée à Adam pour nous tous. Il y a eu un seul à pécher, c'est Adam. Alors vous voyez, la nature et la grâce originelle qu'il a reçue, il l'a reçue pour tout le corps mystique de l'humanité. Et en faisant lui seul le péché, la nature, la grâce originelle s'en va, la nature intégrale n'est plus intégrale, elle est blessée, sa science infuse disparaît, sa volonté est disloquée, et il lui reste plus que... la mort apparaît dans son horizon immédiat, est nécessaire, et puis... Quand il va engendrer, il va communiquer une nature blessée. Une nature, vous voyez, qui n'est plus orientée de manière facile, naturelle, instinctive, vers la finalité surnaturelle, vers le ciel, vers la vision béatifique. De sorte que nous, quand nous sommes conçus par nos parents, nous recevons d'Adam, pas par nos, de nos parents, pas de nos parents, mais nous recevons d'Adam, parce qu'Adam, il a reçu la nature intégrale avec la grâce originelle pour lui et pour moi et pour tous ceux qui seraient conçus à partir de lui. Donc c'est pas de nos parents que nous recevons le péché originel, nous recevons le péché originel directement d'Adam, parce qu'il y a un corps mystique avec Adam. Pour vous, comment vous expliquez ça? Vous voyez, par exemple, quand vous prenez, parce qu'un corps mystique, c'est quoi? C'est un peu comme un corps. Si votre main elle décide de faire un gros péché, une grosse blague, un très gros péché. C'est votre main seulement, hein? Votre main fait un péché. Bon, elle fait, je sais pas quoi. Mais moi, j'ai aucune imagination, donc fait un péché. Bon, votre main fait un péché. Bon, fait mal. Votre main fait un péché. Mais quand votre main a fait un péché, c'est une partie seulement de vous qui a fait un péché. Et c'est vous tout, c'est tout le corps qui est pécheur, si vous voulez. Ce qui s'est passé en Adam. Adam, du point de vue de la nature humaine intégrale qu'il reçoit pour toute l'humanité, fait un péché. Et du coup, c'est le bateau tout entier où toute l'humanité se trouve qui coule. Si vous voulez, Adam, c'est une source. Il reçoit une source limpide, il y met de l'encre, et nous recevons une eau sale, une eau pécamineuse, une eau pourrie. Et donc ça, c'est un péché. Vous voyez, notre âme, quand elle est conçue, elle fait vraiment un péché. Elle est vraiment pécheresse. Il y a vraiment un péché. Vous voyez, le péché n'est pas forcément lié à un péché qui nous est personnel. C'est pas parce que nous avons fait un péché personnel que nous n'avons pas péché. C'est ça la différence entre le péché personnel et le péché originel. Le péché originel, nous le contractons vraiment parce que nous recevons de la semence adamique. Ce n'est pas de nos parents. Ce n'est pas parce que nos parents ont fait une unité responsable qui n'est pas parfaite. Pas du tout. Il y a plein d'hérésies qui ont dit le péché originel vient en nous parce que l'unité responsable entre le père et la mère n'est pas parfaite. Alors du coup, il vient de là que notre conception... donne un résultat pas terrible. C'est pas ça du tout le péché originel. Le péché originel ne vient pas de nos parents, pas du tout, strictement pas. Ça vient que il y a, par propagation de l'humanité, la propagation de l'humanité nous communique non pas une nature intégrale et surnaturalisé par la grâce originelle, mais nous communique une nature qui fait que immédiatement nos puissances d'amour, notre conscience d'amour, notre volonté profonde, notre liberté passive, nous orientent personnellement vers le terrestre, vers le secondaire, vers quelque chose qui n'est pas Dieu. On choisit quelque chose qui n'est pas Dieu dans une espèce de volonté personnelle immédiate. Et c'est pourquoi ça vient de la nature blessée. On n'a pas, c'est pas nous qui avons commis le péché originel, mais néanmoins, nous avons quand même le péché en nous, et notre volonté est impliquée. C'est pour ça qu'il est nécessaire de recevoir le baptême pour être pardonné de ce péché. Et si on n'est pas pardonné de ce péché, je tiens à vous le dire, l'Écriture l'affirme, le rappelle constamment, eh bien, nous ne pouvons pas, au-delà de la mort, aller dans la vision béatifique. C'est la damnation, la réprobation. Parce que notre volonté ne changera pas après la mort. Et donc, il faut que nous soyons lavés, pardonnés du péché originel. Il faut vraiment, parce qu'il y a vraiment une faute. Et nous participons vraiment à cette faute. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez vous-même, n'est-ce pas, que nous participons à cette faute. Ah, bien sûr, en plus, il va y avoir dans notre vie des péchés personnels. Ça, c'est autre chose. D'autre chose. Et ce n'est pas parce que nous sommes baptisés, vous voyez, d'où la nécessité du baptême pour le salut. C'est nécessaire, le baptême. Alors, attention, je suis d'accord que... Il n'y a pas que le baptême sacramentel, il y a le baptême de désir, le baptême d'eau, le baptême de sang, le baptême de feu, le baptême de... etc. D'accord. Bon. Fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets, on continue. Mais ça, c'est pour les esprits bienfaisants qui aiment que tout le monde soit intégré. Mais voyez bien que ici, cette histoire péché originel a quelque chose de très très important pour nous, de comprendre que c'est pas... un péché qu'on aurait fait, par exemple, mystérieusement, on aurait été, comme disent les juifs, certains rabbins disent, dans le Zohar, par exemple, on voit que certains rabbins disent que nous, quand on a été conçus par Dieu, au moment où Dieu nous conçoit dans le sein maternel, il nous transplante à l'intérieur du corps d'Adam, au moment où il est en train de pécher. Et donc on pêche avec lui. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il y aurait une espèce de pacte physique qui fait qu'on est corporellement dans le corps d'Adam au moment où il pêche. Par un acte miraculeux, si vous voulez. Bon, c'est parce que c'est le souci, ça. Vous voyez, c'est le souci des rabbins de montrer que le péché originel, eh bien, nous en sommes vraiment fautifs personnellement. Même si ce n'est pas un acte qui nous est personnel. C'est une manière symbolique, comme toujours, les rabbins, vous voyez. Mais en réalité, l'Église a défini, et l'Écriture déjà, prenez l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 21, ce que l'Écriture nous dit sur le péché originel, vous voyez, c'est que nous avons, avec un seul qui a péché, tous sont morts. Parce que nous avons tous péché en lui. Et parce qu'un seul, par son acte, a produit la mort du corps mystique qu'il représente en tous, toute la multitude. Alors à ce moment-là, un seul, le nouvel Adam, produit une vie nouvelle qui nous remet dans la finalité surnaturelle, nous remet dans la gloire. Donc il y a deux corps mystiques. Il y a le corps mystique qui fait qu'on est lié à Adam, dans le péché originel, et qui fait qu'il y a comme à l'intérieur de nous comme un espèce d'habitus entitatif. Oh, oh là là, habitus entitatif. Ah, vous l'avez jamais entendu parler ça? Depuis 5 ou 6 ans que je suis avec vous, ou 10 ans, vous avez jamais entendu ça? Si, hein, il me semble que je vous ai déjà parlé de ça, hein, habitus entitatif. Il y a une qualité, exis, en grec. Il y a une qualité intérieure qui vient s'enraciner dans le point de vue substantiel de toute notre vitalité spirituelle et corporelle et humaine. Vous voyez, on a une espèce de... C'est pas une habitude du cœur, c'est pas une habitude de la volonté, c'est pas une habitude de l'imaginaire, c'est pas une habitude du corps, c'est un habitus. Qui vient s'enraciner dans le fait même qu'on existe dans une nature blessée. Et cet habitus fait que, il y a, au lieu que nous soyons tous dans l'habitus entitatif de la grâce originelle vient s'enraciner dans l'être d'Adam, dans la nature humaine, pour lui donner cette unification, cette facile orientation dans un amour totalement uni avec le feu qui brûle l'intériorité de l'amour divin, pour qu'il aille vers l'union transformante de manière héroïque. Voyez. Et comme il n'y a plus la grâce originelle, bah, la volonté, elle va vers des biens qui ne sont pas mauvais en soi. Bah, vers l'amitié, vers le fromage de gruyère, vers... ça dépend. L'intelligence, elle va vers des biens, au lieu d'aller vers l'un en soi, elle va vers le multiple. Au lieu d'aller vers la substance de l'être premier et de la sagesse, elle va vers des idées, au logis. C'est ça ? Et l'imaginaire, au lieu d'aller vers quelque chose qui nourrit le don total de soi, va vers le système du bourra, qui agglutit ses images jusqu'à devenir une immense bête de la mer et de la terre. L'image de la bête, la télé, vous voyez, extraordinaire. Et chaque puissance va vers son bien. Au lieu que toutes les puissances aillent vers la finalisation naturelle et éternelle par le point de vue de l'influx d'une grâce intérieure, il n'y a plus ça. Et du coup, l'habitus antitatif de la grâce originelle, qui s'enracinait là, n'y est plus. Alors c'est remplacé par un habitus antitatif qu'on appelle le fomes peccati, le foyer du péché. Le foyer du péché, le foyer de la concupiscence. Fomes peccati, il faut connaître, ça, c'est la culture générale, ça. Tout le monde sait ça, hein. Fomes peccati. Le foyer, n'est-ce pas? Fomes peccati. Le foyer du péché, la concupiscence. Et là, on a une tendance à la concupiscence, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'être entièrement livré, brûlé dans l'un, dans l'unité des processions trinitaires, dans la vision béatifique, on est entièrement livré à nos puissances. Qui va chacune vers un bien, et donc il n'y a pas d'harmonie jusque dans l'éternité, mais il y a une espèce d'équilibre, et comme cet équilibre reste quand même positif, puisque chacun va vers son bien, en nous, mais c'est dans la multiplicité, c'est un habitus entitatif. Et en fait, il fait que, finalement, on va vers, dans notre nature, dès qu'on est conçu, on va vers quelque chose qui ne va pas, vers quelque chose qui n'est pas la gloire, quelque chose qui n'est pas notre finalité, quelque chose qui n'est pas notre vie, quelque chose qui n'est pas notre être, quelque chose qui n'est pas notre amour, quelque chose qui n'est pas, voyez, notre lumière, quelque chose qui n'est pas notre contemplation, quelque chose qui n'est pas notre lumière de gloire, quelque chose qui n'est pas notre prédestination, quelque chose qui n'est pas notre corps, finalement, quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est même pas surnaturel. Donc, du coup, pas naturel. Parce que nous sommes une nature appelée par l'acte créateur de Dieu dans Adam, à l'image et ressemblance de Dieu, à la vision béatifique. Et nous naissons avec ça. Alors, le péché originel, nous en sommes fautifs. Le baptême fait que cette fomes peccati, cet habitus antitatif de péché, c'est-à-dire de choix spontané de choses terrestres, donc secondaire par rapport à notre finalité intrinsèque, instinctive, immanente, personnelle. Le baptême va faire quoi? Il ne va pas supprimer la concupiscence, comme vous avez pu remarquer. Vous avez remarqué, le baptême ne vous a pas supprimé la concupiscence. Si quelqu'un a dit depuis le baptême, je n'ai plus aucune concupiscence, qui viennent me voir, ça m'intéresse. Parce que là aussi, on mettra dans le zoo, qu'on avait commencé à constituer tout à l'heure, dans la deuxième cage, quelqu'un qui n'a plus de concupiscence après le baptême. Mais attention, c'est pas du tout comme Luther. C'est que si le foyer de là, les conséquences du péché originel, les séquelles du péché originel demeurent, il y a une espèce de poids vers le sensible, si vous voulez, on est plus attiré vers les choses sensibles. Notre volonté n'est pas tellement surélevée à la sainteté immédiatement, il faut qu'on s'arrache un peu. Et notre intelligence n'est pas spontanément illuminée par la vérité, il faut qu'il la recherche. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de la trouver, mais il faut qu'elle la recherche. pas? Donc il y a encore les trois séquelles, les trois conséquences du péché originel, mais il n'y a plus l'habitus entitatif. Il n'y a plus le péché. Le baptême nous a enlevé le péché. Et profondément, c'est normal, puisque ça vient d'Adam, le péché. Ça vient d'Adam. C'est un acte personnel d'Adam qui nous fait hériter de ça. Vous comprenez le problème? C'est que du coup, c'est un acte personnel de Jésus, nouvel Adam, qui vient remplacer ce choix. Vous voyez? Ce choix vers le terrestre, et le baptême enlève cet habitus entitatif qui fait que on choisit avec Adam, dans un corps mystique adamique, de vivre uniquement séparé de Dieu et sur la terre par orgueil, spontanément, et c'est remplacé par un habitus entitatif nouveau qu'on appelle, cette fois-ci, non pas la grâce originelle, mais la grâce sanctifiante. Et la grâce sanctifiante fait que je suis, à partir du baptême, j'appartiens corporellement, amoureusement, affectivement, psychologiquement, imaginativement, psychiquement, spirituellement, j'appartiens au corps mystique d'Adam et en même temps au corps mystique du Christ. En moi, il y a le corps terrestre, il y a encore la concupiscence, et donc je fais encore partie du corps mystique d'Adam, et par la grâce sanctifiante, je suis substantiellement, quant à la substance, pas quant à la périphérie, à... Vous voyez, là où Luther s'est foutu dedans, quant à la substance, non pas tant qu'à la périphérie, je fais partie du corps mystique du Christ qui, par l'acte de son incarnation et de sa rédemption, redonne à toute ma substance, toute ma volonté, toute mon vie spirituelle, un instinct, dès que je le veux, dès que je le fais, un instinct qui me remet dans cette finalité éternelle et surnaturelle. Mais n'empêche que je fais encore, j'ai encore des blessures qui font que l'humanité tout entière reste présente en moi. Par le baptême, je porte l'humanité tout entière et je la transplante dans le corps mystique du Christ par le baptême qui nous remet tous dans la finalité surnaturelle, divine, éternelle. Et c'est ça le baptême. Vous comprenez que si le baptême ne nous avait pas enlevé les concupiscences, plus de problèmes, plus de péchés, facile, plus de tentations, plus de péchés, plus de désirs, machin, c'est extraordinaire. Hein? Mais à ce moment-là, on est au ciel et puis les autres qui crèvent. C'est ça. Mais grâce à ça, nous avons encore un corps terrestre. Ce corps terrestre nous met en solidarité physique, hein? Avec une nature blessée, et donc on est lié avec Adam et toute l'humanité, tous les hommes, chacun. Mais dans la grâce sanctifiante, nous pouvons nous plonger ensemble dans le corps mystique du Christ et trouver un deuxième corps mystique dont la tête est le Christ ressuscité d'entre les morts. À ce moment-là, nous retrouvons tous, par l'acte de foi que je fais à partir de la puissance de mon baptême, cette finalité surnaturelle perdue. Et qu'un homme ne peut pas se la donner, c'est surnaturel. C'est pas humain, c'est pas naturel, et c'est hors toute limite de nos puissances, vous voyez. C'est illimité par rapport à nos puissances. Nos puissances sont limitées. Voilà ce que c'est que le baptême. Vous voyez, donc vous avez, premier effort, la Bible, trouver le corps mystique du Christ qui vous parle à travers l'Écriture 5 minutes. Deuxième effort, approfondir le baptême. Approfondir la grâce du baptême et comprendre que dans la grâce du baptême, voyez, quand vous faites par exemple une respiration quotidienne à midi par exemple, après le boulot, vous rentrez dans votre voiture, vous rentrez dans le petit cagibi là qui est à côté de la secrétaire, tout ça, bon, vous arrêtez, vous mettez, je sais pas, dans une petite oratoire, chapelle, fauteuil, où vous voulez, dans la nature, sur un banc, bon, etc. Et puis, ou dans le métro, enfin, ça n'est pas à Paris ici. Et puis, moi j'aimais bien faire ça dans le métro, bon, ça n'a aucune espèce d'importance.
jusqu'à ce qu'une bombe explose. Pour croyade. Alors donc, attends, ça n'a rien à voir. SMIC. Bon. Et vous respirez, voyez. Vous sentez que vous êtes vide. Vous sentez que la mort est là. Vous sentez que tout est pourri. Vous sentez qu'il y a l'athéisme. Vous sentez que les gens sont figés les uns par rapport aux autres. Vous sentez que l'Église est absente. Vous sentez que Dieu est oublié. Vous sentez que vous-même, vous êtes inhibé. Vous sentez que vous êtes stérile. Vous sentez que vous n'êtes pas un saint. Vous voyez tout ça. Alors, vous retrouvez ces concupiscences. Et grâce à ça, à l'intérieur, au milieu de tout ça, vous plongez dans cette espèce d'océan de ténèbres et de foyer du fomes peccati, dans la lumière du corps mystique du Christ qui rejaillit, vous plongez dedans, vous voyez, dans la cuve, une lumière, et c'est la lumière du baptême, et tout ce corps est transformé en corps mystique du Christ, et vous vivez la certitude que le Christ nous met dans le sein du Père, et que l'Esprit Saint prend sa place, et que la grâce, la plénitude de grâce prend toute sa place, et vous respirez comme ça pendant 5 minutes, et puis après vous allez bouffer, et puis après vous repartez au travail, tous les jours vivre du baptême, faire oraison. Deuxième axe, troisième axe, il y a trois axes. Je suis trop long, hein, non mais c'est censé être une petite introduction et vraiment je suis confus. Je voulais pas m'attarder comme ça, je dis bon. Bon, ça fait rien, vous commencez à connaître le bonhomme, alors c'est pas... Moi aussi je me surprends moi-même, vous croyez bien. Alors, donc, voilà. Le troisième axe par lequel nous devons vivre, donc en 1997, sera, consistera à renforcer, à rendre forte la foi. La foi et le témoignage des chrétiens, de manière à ressusciter à l'intérieur de tous les croyants une réelle aspiration à la sainteté. Oui, appel à faire donc qu'il y ait donc une très très grande vie d'oraison. C'est ça, finalement, je vous l'avais déjà dit. D'accord. Voilà les trois axes. Donc, la foi, le baptême, la Bible. Et si on vit ça, vous sentez bien que c'est important de parler du péché originel dans cette perspective, parce que la perspective du péché originel nous montre que c'est pas nous avec Jésus, c'est pas nous avec Dieu. C'est pas toi et Dieu, hein? Non, non. L'amour de Dieu et l'amour du prochain sont inséparables. C'est que le péché originel et le baptême, le sens du baptême, te montre que tu fais partie d'un corps mystique. On ne peut pas se sauver tout seul. Et d'un autre côté, le baptême est nécessaire pour que toi, tu puisses faire des actes de foi et faire jaillir le corps mystique du Christ à travers toi pour leur redonner une grâce actuelle à tous, sans exception, qui peuvent saisir ou pas saisir. Hein. C'est quand toi tu fais un acte de foi dans le corps mystique du Christ et que tu renouvelles ton baptême pour redonner à tout le corps mystique déchu une nouvelle finalité surnaturelle dans le corps ressuscité du Christ, à ce moment-là, tu donnes la possibilité à toute l'humanité existante de recevoir une grâce actuelle. L'humanité existante, chacun d'entre eux peut la prendre ou ne pas la prendre. Ça, c'est sûr. Mais n'empêche que sans le baptême, tu ne peux pas être sauvé. Il est nécessaire de recevoir cet engloutissement de la nature déchue dans la nature glorifiée du Christ mort et ressuscité pour entrer dans la lumière de gloire. Sinon, c'est impossible. C'est pourquoi l'Église a toujours proclamé la nécessité du baptême pour le salut. Par exemple, c'est pour ça que l'Église, dès le départ, a demandé qu'on baptise les tout petits enfants. Dès la naissance. Parce que souvent, regardez, par exemple, vous avez un truc où on dit, oh, ben, moi j'ai un gosse, mais enfin, il verra quand il sera plus grand. Il verra comme ça. Comme si il n'avait pas reçu une nature déchue. Comme si il n'avait pas besoin d'une nouvelle finalité donnée par Dieu. C'est lui ou c'est Dieu qui se relèvera de cette nature déchue. Voyez, et c'est lui qui va se pardonner lui-même. C'est le Christ qui nous pardonne cette nature déchue, qui fait qu'on choisit ça. Et qui, une fois qu'on est pardonné, bon ben très bien, avec la puissance que donne le baptême, il pourra, j'allais dire, toujours, à partir de ses fautes, se relever dans sa finalité surnaturelle. Sinon, impossible. Oui. Et puis bon, c'est pour ça bon, que il y a un truc là, oui. Je vais vous le lire quand même, parce que j'étais heureux de trouver ça. J'ai trouvé ça il y a deux jours. Oh, comme j'étais content de trouver ça. Oh, je vais vous le lire. Il y a eu la Révolution française, vous savez, 1789. Et puis, on a coupé la tête au roi Louis XVI. 1780, 13, 12. 12 ou 13 ? Bon. Du coup, l'Église tout entière a frémi, n'est-ce pas ? Devant le sang qui a coulé. C'est la terreur. La terreur en France, la fille aînée de l'Église. Alors, le sang a coulé. Il faut voir, cette Révolution française, c'était génial. Enfin. C'était. Oui, parce que, vous savez, c'était génial. Vous savez, en grec, hein, le génie, ça s'écrit daimon. Hein. C'était génial. C'était daimoniaque. Bon, révolution. C'était vraiment génial. Génial. Et du coup, le pape Pie VI, hein, Pie VI, a sorti une bulle en 1794, une bulle. Auctorem Fidei, qui condamne le jansénisme. Et le jansénisme, qu'est-ce qu'il dit ? Jansénus, les jansénistes. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Parce que le Concile de Trente, Pie V, c'est pas tout à fait avant Pie VI, c'était carrément avant, mais Pie V avait fait le Concile de Trente pour condamner le calvinisme, Luther, etc. Et puis, donc, Pie VI donne une condamnation définitive du jansénisme. Et il y a 26 propositions qui sont condamnées, n'est-ce pas ? Comme l'alphabet hébreu, 26 propositions. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que, qu'est-ce qu'ils font les jansénistes ? Ils disent, quand tu es conçu dans le sein de ta mère, tu es prédestiné à aller à l'enfer ou à aller au ciel. Dieu te prédestine, tu as une prédestination. Vous voyez, comme c'est contraire à la foi, c'est ce que pape Pie VI a dit, c'est contraire à la foi, c'est contraire à toutes les définitions dogmatiques, c'est contraire à l'écriture, il dit, c'est contraire au baptême, c'est contraire à l'incarnation, c'est contraire à ce qu'on sait sur le péché originel. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand tu es conçu, tu n'es pas prédestiné. Quand tu es conçu, tu es dans une nature déchue, point à la ligne. Tout le monde. Et la prédestination, c'est que c'est le corps mystique du Christ, c'est le Christ seul qui est prédestiné. La prédestination, c'est le corps mystique du Christ, c'est le Christ qui est prédestiné à être fils du Père pour produire l'Esprit Saint éternellement dans la vision béatifique. C'est le Christ seul. Et si nous sommes tous prédestinés, nous sommes tous prédestinés dans l'acte créateur de Dieu, par rapport au début de notre conception, nous sommes tous prédestinés à participer au corps mystique du Christ. La prédestination, c'est une participation à la prédestination unique du Christ dans son corps mystique. C'est très important, ça. Et les jansénistes, ils disent, bon non, je fais, hein, je prends mon glaive, raf, comme ça, monsieur l'archange, jansénius, raf, toi, clac, le jugement dernier à la conception. Non mais avant, c'est pas juste. Hein? Moi, je trouve que c'est pas juste. Alors, le pape Pie VI a dit, puisqu'on a coupé la tête à Louis XVI, on va couper la tête au dragon. Et on va dire, ça va pas. N'est-ce pas? C'est très beau. Et alors, Octorem Fidei, 26e, eh bien, la 26e proposition. Oh, j'espère que vous retendrez ça. Hein. Le pape Pie VI condamne la formule janséniste, proclamant comme une vérité qu'il faut condamner, alors là, les limbes comme une fable qui vient de Pélage. Cette condamnation, faite par les jansénistes disant que les limbes sont une fable, est condamnée officiellement par le pape dans sa bulle comme fausse, téméraire, injurieuse à la doctrine infaillible de l'Église. Ah, oh, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça, celui-là, maintenant? Qu'est-ce que c'est cette histoire de limbes? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Les limbes. Ah, oh, voilà encore un nouveau terme, décidément. Entre fomes peccati, habitus intitatifs, etc. Bon, limbes, qu'est-ce que c'est que cette chinois? Au moins, aujourd'hui, vous pouvez enrichir votre dictionnaire. Limbes, c'est quoi? Les limbes, eh ben, c'est les enfants. C'est tous ceux qui vont mourir innocents sans le baptême. Étant donné qu'il faut la nécessité du baptême pour entrer dans la vision béatifique, ils sont pécheurs. Personne, leurs parents n'ont pas demandé pardon pour eux, pour les laver du péché. Eux n'ont pas pu le demander non plus, ils n'ont pas pu faire un acte de foi. Donc, ils sont pas ils ont toujours le péché et leur volonté va... Et ça, Dieu n'en peut rien changer. Dieu ne peut pas changer la liberté d'une nature. Il ne peut pas les recréer, si vous voulez. Et donc, ils ne vont pas vers Dieu spontanément. Et ça, définitivement. Et donc, ils ne vont pas en enfer, évidemment. Ce n'est pas un péché personnel, donc ils ne sont pas jugés. Donc, ils sont encore dans le temps. Alors, moi, à mon avis, ils attendent qu'il y ait une paternité et une maternité, qu'ils les réadoptent et qu'ils leur donnent le baptême de l'eau, au moins. La réintégration dans une humanité qui cherche à vivre du corps mystique du Christ. Mais ceux qui disent, comme les jansénistes, ils ont perçu le baptême, ils étaient prédestinés à l'enfer. Eh bien, c'est condamné par l'Église. C'est des petites choses comme ça, vous voyez. Quand nous vivons du baptême, quand nous vivons de la foi, quand nous vivons de l'Écriture, de la doctrine infaillible de l'Église, et que nous vivons de l'amour du corps mystique du Christ, il faut comprendre que nous sommes responsables de tous ceux qui ont le péché originel et qui ne peuvent pas recevoir le baptême, et que c'est à nous de les baptiser dans le corps mystique du Christ, par la charité. C'est une deuxième manière de vivre du baptême. Parce que nous sommes responsables. C'est ce que dit le Christ. Hein. Dis à ta mère et ta famille, tes frères, la machin, tes sœurs qui sont dehors. Dis, mais qui sont pas mères, mes frères? Celui qui fait la volonté, voyez. Habitus intitatif de la grâce sanctifiante, on est totalement unis dans l'Esprit Saint qui jubile dans la réunion du Père et du Verbe, dans la vision béatifique de la lumière de gloire. Celui qui fait la volonté du Père, c'est vie éternelle, hein, vous le savez. Cette vie de la lumière de gloire, la vision béatifique, c'est ça. Le seul commandement du Père, c'est qu'on se tourne vers la vision béatifique et qu'on soit entièrement aspiré, troisième axe du Saint-Père. Aspirer vers la sainteté, lumière de gloire. Qu'on anticipe l'entrée dans la vision béatifique. C'est la seule volonté du Père. Celui qui vit de la volonté du Père, et ça on ne peut pas en vivre en dehors du corps mystique. Impossible. C'est celui-là qui est mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. C'est extraordinaire cette parole. Donc ça veut dire dans la charité, voyez, la charité ne peut jaillir que du corps mystique de Jésus qui brûle mon cœur dans l'anticipation de la lumière de la vision béatifique, avec tout le corps mystique du Christ. Et à ce moment-là, comme je suis lié à tous ceux qui sont dans le fomes peccati et ceux qui sont dans les limbes, je peux les intégrer dans ma foi. Je peux les intégrer dans l'élan, dans la finalité nouvelle d'un corps mystique du Christ. Il faut apprendre à faire ça. Parce que si vous faites votre oraison, c'est en disant, ah, je fais 5 minutes d'oraison, et puis, ah, je plane, je sors de ce monde foutu, idiot, sagesse, saveur, lumière, amour, bonté, surabondance, hein, imbécile. Oui, parce que c'est le sujet, c'est là. Donc, vous voyez, la manière très habile de revenir au sujet initial.